Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Emma Liechtenstein, Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Barthélémy Gaillard et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Lecuivre. À la technique ce matin, c'est Nicolas Delmas. Des dynasties politiques au pouvoir depuis des décennies, des institutions militaires toutes puissantes, des élections verrouillées. En Asie du Sud et du Sud-Est, les jeunes se battent aujourd'hui pour des systèmes plus ouverts et pluralistes. Mais la démocratie leur est confisquée. Nous parlions hier du Pakistan où le parti d'Imran Khan a remporté les législatives mais ne peut pas gouverner. Nous évoquerons demain les Philippines, une affaire de famille. Aujourd'hui, la Thaïlande où de grandes manifestations avaient éclaté en 2020, mais la monarchie reste intouchable, fut-elle constitutionnelle.
Est-ce que la Thaïlande est vraiment une démocratie comme on le dit? Pour moi, ce n'est pas le cas au sens propre du terme. Les structures du pouvoir ne sont pas du tout démocratiques. Le peuple n'a pas beaucoup l'occasion de s'exprimer parce que le Parlement nous ignore toujours.
Je ne peux pas parler librement. Si vous voulez savoir, il faut d'abord que le crime de lèse-majesté soit aboli.
Rien ne peut durer pour toujours. Tout doit changer. On ne demande pas que la monarchie soit renversée, oubliée ou qu'elle ne soit pas respectée. On lui demande simplement de changer avec nous. Notre pays a besoin de s'adapter à beaucoup de choses et la monarchie est l'une des questions qui doit également être adaptée.
Je veux que ce soit Move Forward qui dirige le pays. Tout doit changer. Avec eux, l'avenir sera différent et meilleur.
L'avenir devait être différent avec le parti Move Forward, aller de l'avant, issu des grandes mobilisations populaires de 2020 en Thaïlande. En mai dernier, le jeune parti a réuni 14 millions de voix, soit plus que chacun des partis traditionnels thaïlandais. Dans son programme, Move Forward promettait entre autres une réforme de la loi sur le crime de lèse-majesté qui punit lourdement toute offense au roi. Fort de son score inespéré, le parti réformiste aurait dû à minima faire partie d'une coalition au pouvoir. C'était sans compter une alliance de dernière minute inattendue entre les partis conservateurs liés aux militaires et une formation qui jusque-là était leur opposant le plus féroce à ces militaires, peu à taille de l'ancien Premier ministre Thaksin en exil pendant 15 ans. Un retournement de veste que personne, en tout cas ici en France, n'avait vu venir. Alors cette trahison dit-elle quelque chose d'une pression exercée par ceux qui détiennent véritablement le pouvoir en Thaïlande, que ce soit l'armée ou la famille royale? Comment ces deux institutions continuent à verrouiller le pouvoir? Comment peuvent continuer à se mobiliser ceux qui s'opposent à cette confiscation du pouvoir? Nous en parlons aujourd'hui avec Eugénie Mériot. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes politologue, maîtresse de conférences en droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez publié « Idées reçues sur la Thaïlande » aux éditions du Cavalier Bleu et un autre livre dont nous parlerons à la fin de cette émission, Eugénie Mériot. Alors, pour comprendre d'abord la situation politique actuelle en Thaïlande et les aspirations contrariées d'une grande partie des électeurs qui avaient voté pour le changement, pour le dire vite, il faut d'abord définir la monarchie thaïlandaise, raconter comment elle a évolué dans le temps. Ce n'est plus la monarchie absolue qu'elle était encore au début du XXe siècle, cette monarchie.
Oui, alors la Thaïlande est un des rares pays au monde à ne pas avoir directement été colonisé. Et étant restée indépendante, elle a pu maintenir un système juridique non occidentalisé pendant très longtemps et c'est un des pays qui a adopté une constitution tardivement. Donc en 1932, c'est la date à laquelle la Thaïlande passe d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. Et d'ailleurs, les architectes de cette révolution et de cette première constitution dans le royaume de Thaïlande sont les premiers étudiants thaïlandais envoyé en France, et notamment Pridipanom Yong, qui était un juriste thaïlandais, qui a étudié sous la Troisième République en France, et qui, à son retour en Thaïlande, avec l'aide d'un autre étudiant qui lui avait étudié en Allemagne, militaire cette fois, et bien les militaires et les juristes se sont alliés pour renverser cette monarchie et mettre en place une constitution. Au départ, une constitution inspirée assez républicaine, avec un monarque qui avait très peu de pouvoir, mais finalement, la monarchie monarchie a réussi à reprendre le dessus et à mettre en place une sorte de monarchie limitée, un petit peu à l'image de ce qu'on avait avec la charte de 1814 en France, donc une monarchie qui conserve quand même pas mal de pouvoir.
Et c'était quand ça que la monarchie a repris un peu le pas et a repris de la place dans cette monarchie constitutionnelle, dans ce système constitutionnel?
Oui, en particulier le veto, évidemment, mais aussi un pouvoir de nomination très important, notamment du Premier ministre, et puis un pouvoir finalement de veto également sur les textes constitutionnels, et c'est une prérogative royale qui s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Et la Thaïlande est très friande de constitution, hein, puisque depuis 1932, il y a eu 20 constitutions, donc c'est une constitution tous les 4 à 5 ans en moyenne. Ces constitutions sont généralement mises en place après des coups d'État. Donc, qu'a fait le roi en 1932? C'est qu'il s'est appuyé sur l'armée pour récupérer un petit peu de pouvoir. Et cette alliance entre la monarchie et l'armée a fructifié au cours de l'histoire de la Thaïlande, aidée par les États-Unis d'ailleurs pendant la guerre froide, puisque les États-Unis voyaient la monarchie en Asie du Sud-Est comme le moyen de contenir l'effet domino communiste dans la région. Ils ne s'y sont pas trompés d'ailleurs, puisqu'en effet le communisme n'a jamais fleuri en Thaïlande. Et en tout cas, jusqu'à 2020, date de la dernière constitution, le roi a maintenu son veto sur les processus constituants, sur les nominations de premier ministre et sur les nominations d'un certain nombre d'organes, on pourra en parler.
Oui, et ce qui est très paradoxal, Eugénie Mériot, en Thaïlande, c'est donc, vous le dites, de très nombreuses constitutions depuis la révolution de 1932 et le changement de régime monarchique qui devient plus constitutionnel, mais un très grand attachement à chacune de ces constitutions. Il y a presque un culte, écrivez-vous dans votre livre, de la constitution en Thaïlande, des monuments de la constitution.
Alors c'est ce qu'avait fait Pridipanomiang justement en 1932 pour que les Thaïlandais soient attachés à la Constitution. Donc il avait essayé d'utiliser les moyens traditionnels thaïlandais pour faire adhérer la population à son projet constitutionnel et donc la sanctifier avec de la symbolique bouddhique et essayer de remplacer, l'idée était de remplacer la monarchie par la Constitution en tant que norme suprême. C'était l'objectif, mais ça n'a pas abouti. Donc aujourd'hui, nous avons toujours le culte de la Constitution, mais de la Constitution donnée par le roi. Donc si vous regardez la symbolique, et c'est dans le livre en partie, du monument de la démocratie en Thaïlande, qui est au centre, à Khao San Road, au centre de Bangkok, du cœur historique de Bangkok, vous avez cette Constitution qui est représentée en feuilles de latanier pliées. Donc c'est la manière traditionnelle des manuscrits bouddhiques en Thaïlande, tout en or, sur un bol qu'on appelle Panwenfa, qui est le bol qu'on utilise pour transférer des choses du monde sacré au monde profane. Donc vous avez vraiment toute cette symbolique royaliste bouddhiste qui entoure la Constitution. Et en effet, vous avez un culte de la Constitution, même si ce texte change tous les 4 à 5 ans en moyenne.
Il y a toujours l'élection d'une Miss Constitution en Thaïlande?
Non, ça c'est terminé. C'est terminé. Mais en revanche, l'élection de Miss en Thaïlande a un très fort... est utilisée notamment par les dictatures militaire depuis les années 60 pour pinkwasher le régime militaire thaïlandais.
Pinkwasher?
Ouais, absolument.
On appelle ça, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de pinkwashing en Thaïlande?
C'est utiliser soit la législation LGBT, soit les représentations des Miss, en tout cas utiliser l'idée d'une orientation sexuelle très ouverte et d'une féminité débridée pour redorer le blason d'un régime autoritaire qui, par nature, est considéré comme plus viriliste. Donc c'est un moyen qui a été utilisé et qui est utilisé par de nombreux régimes à travers le monde pour justement pour softiser ou en tout cas adoucir cette image d'un régime autoritaire.
Alors en 2020, quand des grandes manifestations éclatent d'abord à Bangkok, est-ce que les personnes qui viennent manifester pour un changement de régime, est-ce qu'ils sont là pour la chute de la monarchie ou pour une autre monarchie?
Alors, ça me permet de revenir un instant sur ce que vous avez dit en introduction, quand vous avez dit le move forward et la conséquence des manifestations de 2020. Non, c'est la cause. En réalité, le move forward est la refondation d'un parti qui a été dissous par la Cour constitutionnelle, qui était le Future Forward, absolument. Et lorsqu'il a été dissous par la Cour constitutionnelle en 2020, à ce moment-là, les manifestants ont pris la rue. Donc, c'était vraiment en réaction au vol du vote thaïlandais déjà à l'élection d'avant celle de 2019 que les jeunes thaïlandais ont manifesté massivement. Et vous avez raison de souligner que pour la première fois dans l'histoire du pays, peut-être, nous avons des revendications qui ouvertement demandent l'abolition de la monarchie. Si on se promène dans les rues, j'étais en 2020 dans ces manifestations, les graffitis, les slogans étaient extrêmement violents à l'égard de la monarchie, qui, je rappelle, est sanctifiée en Thaïlande. Donc, voir ces mots dérogatoires, ces insultes à l'encontre, utiliser même le vocabulaire utilisé pour décrire la monarchie, normalement, n'est pas le même que celui pour le commun des mortels. Et là, vous aviez vraiment quelque chose de nouveau qui s'est opéré en 2020.
Alors on est là dans une artère du centre-ville historique de Bangkok, des milliers de personnes sont là dans cette artère, dans cette rue, sous des parapluies colorés, il y a des gens déguisés, d'autres qui brandissent des colombes en papier au bout de bâton. Eugénie Mériot, il demandait notamment, ces manifestants, une réforme du crime de lèse-majesté. Vouloir réformer en Thaïlande le crime de lèse-majesté, est-ce en soi un crime de lèse-majesté?
Excellente question, et la réponse est oui, en tout cas si on en croit l'interprétation qu'en a faite la Cour constitutionnelle thaïlandaise, donc cette Cour constitutionnelle qui a jugé en 2012 que le crime de lèse-majesté faisait partie de l'identité constitutionnelle thaïlandaise et dès lors vouloir ne serait-ce que réformer cette loi de lèse-majesté s'apparente à une volonté de renverser le système démocratique thaïlandais. Et on voit ici d'ailleurs une forme d'abus d'un emprunt constitutionnel qui est celui fait à l'Allemagne. Donc l'Allemagne a cette provision-là dans sa constitution que on ne peut utiliser ses droits et libertés pour renverser l'ordre démocratique allemand. Et la Cour constitutionnelle thaïlandaise a utilisé cet argument-là pour empêcher et interdire toute demande de réforme de la lèse-majesté.
La Cour constitutionnelle qui a réitéré là au mois de janvier, elle est formée en Thaïlande de 9 juges, elle devait se prononcer en janvier sur cette réforme réclamée à l'époque par les manifestants et plus récemment par le parti Move Forward, qui a formellement, on le rappelle, remporté les élections législatives de mai dernier. La Cour lui a ordonné à ce parti de cesser toute référence à cette loi, est-ce à dire qu'il ne sera jamais possible en Thaïlande de critiquer la loi sur le crime de lèse-majesté?
Alors, dans le cadre actuel, non. Dans le cadre de la constitution actuelle, non. Dans le cadre dans lequel nous avons le roi actuel et la Cour constitutionnelle actuelle, non.
Donc, Et est-ce qu'on peut le rappeler de quoi il s'agit? En fait, c'est une punitions sont lourdes.
La loi de lèse-majesté est très ancienne en Thaïlande. Elle a connu toute une série généralement d'alourdissements au cours du temps, en particulier pendant la période de la guerre froide, donc encore une fois avec le soutien des États-Unis. Cette loi de lèse-majesté punit toute critique à l'égard de la monarchie de peines de prison allant de 3 à 15 ans, sachant que ces peines sont cumulables. Donc il y a des condamnations à 60 ans de prison et même à plus. Pour de simples messages postés sur les réseaux sociaux. C'est aussi un moyen de créer une atmosphère de dénonciation permanente, puisque n'importe qui peut porter plainte. C'est un crime, hein, donc n'importe qui peut porter plainte pour lèse-majesté contre n'importe qui. C'est ensuite le procureur qui instruit l'affaire. Et vous n'avez pas non plus en général dans les affaires de lèse-majesté de libération conditionnelle. Donc ça permet également de mettre en détention préventive toute une série d'opposants politiques, toute une série d'activistes, et c'est d'ailleurs ce qui est le cas, ce qui a été le cas après 2020. La plupart de ces jeunes qui parfois avaient à peine 18 ans se sont retrouvés en prévention détention préventive pour lèse-majesté, et les procès sont en cours, les procédures sont en cours depuis 2020. En tout cas, ça bâillonne la société civile.
Et qu'en pense Sa Majesté elle-même, le roi Ramadis en Thaïlande? On le voit très peu. On l'avait vu apparaître en 2020. Il y avait aussi des rassemblements royalistes et un journaliste thaïlandais s'est approché de lui pour lui demander ce qu'il en pensait.
Ces gens vous adorent, mais que dites-vous aux manifestants qui sont sortis dans la rue pour réclamer des réformes?
Sans commentaire. Nous les aimons tous de la même manière.
Pouvez-vous envisager un compromis?
La Thaïlande est le pays des compromis.
Le roi Ramadis et sa femme qui n'avaient pas à ce sujet un discours très construit. Eugénie Merriot, qui est en soi par ailleurs une figure sur laquelle il y aurait beaucoup à dire. Alors lui, c'est incongru, il vit en Suisse. Il vit pas en Thaïlande.
Alors, juste pour répondre à la question sur son attitude par rapport à la lèse-majesté, lorsqu'il est monté sur le trône, en 2016, son père est mort, qui était resté de 46 à 2016 au pouvoir, donc l'un des plus grands règnes de l'histoire des règnes contemporains. Et il était vénéré, mais le roi Vajiralongkorn, son fils, lui, a toujours été extrêmement critiqué pour ses attitudes de playboy, pour un désintérêt pour la chose publique et le fait qu'il a eu de multiples mariages, il a été dans de multiples scandales sexuels et en effet, il a préféré souvent habiter à l'étranger plutôt qu'en Thaïlande, et c'est encore le cas aujourd'hui entre la Bavière et la Suisse. Mais lorsqu'il est monté sur le trône en 2016 et qu'ensuite... Il est formellement devenu le roi en 2017. Il a tout d'abord demandé un moratorium sur la loi de lèse-majesté. Et ça avait été noté positivement par l'ensemble de la société comme un signe d'apaisement de la part du roi et puis une volonté de gagner de la légitimité qu'il n'avait jamais eue. Mais depuis 2020, donc depuis novembre 2020, à partir du moment où les manifestations anti-royalistes sont devenues de plus en plus radicales, il a demandé à ce que la lèse-majesté soit à nouveau mise en œuvre. Donc vous avez un rapport très grande défiance, oui, mais entre les juges et la monarchie, vous avez un rapport très étroit. Les juges ont donc mis en œuvre cette loi de lèse-majesté. Ils ont interdit au Move Forward et d'ailleurs aux manifestants avant eux de soulever la question de la réforme de la lèse-majesté. Et d'ailleurs, le parti Move Forward a enlevé de son programme officiel aujourd'hui la réforme de la lèse-majesté. Pour revenir au roi, il a été, en effet, il est extrêmement critiqué, comme je l'ai déjà dit, et c'est la raison pour laquelle, finalement, il s'accroche encore à cette loi de lèse-majesté, qui aujourd'hui connaît un renouveau.
Donc, appuyé en cela par la Cour suprême, qui a donc ordonné à Move Forward toute référence à la loi qui punit le crime de lèse-majesté, vous venez de le rappeler, oui voilà, la Cour constitutionnelle, pardon. Elle n'a en revanche, cette Cour constitutionnelle, pas demandé la dissolution du parti, on l'attendait aussi sur cette question, là au mois de janvier, et elle a autorisé le chef de ce parti à aller de l'avant, Pita Limchaorat. Alors en Thaïlande, il me semble qu'on... Oui, voilà, on dit surtout les prénoms, donc on l'appelle Pita en Thaïlande, c'est le chef de Move Forward. C'était l'une des grandes voix des manifestations de 2020. Il a été autorisé à conserver son mandat de député. Il risquait de le perdre son siège alors que son parti a réalisé un score de 14 millions de voix aux élections législatives du mois de mai dernier, a décroché 150 sièges, 151 précisément sur 500. Pourquoi Pita, comme on l'appelle, n'a-t-il pas pu se présenter au poste de Premier ministre?
Alors ça me permet de parler un petit peu de la Cour constitutionnelle. constitutionnelle qui est une pièce maîtresse du système de démocratie tutélaire qui était historiquement articulée autour du roi et des militaires, mais qui de plus en plus aujourd'hui est articulée autour de la Cour constitutionnelle. Elle a été, cette Cour, mise en place en 97 dans le processus de transition démocratique de 97 qui semblait faire préfigurer une Thaïlande qui serait vraiment démocratique. Et puis cette Cour constitutionnelle, finalement, elle a été instrumentalisée au profit des intérêts de la monarchie et de l'armée, et elle a dissous tous les partis politiques élus depuis 1997, et elle a renversé tous les premiers ministres élus. Sauf chef de l'armée. Donc, par exemple, le parti de Thaksin. Alors, on va peut-être y revenir après. Mais
on
en
va
tout cas,
parler de Thaksin, qui est un personnage très important en Thaïlande et qui est rentré l'été dernier en Thaïlande après de longues années d'exil.
Oui, donc juste, je finis sur le Move Forward. Donc, Pita, si vous prenez le Move Forward, ce parti donc qui porte les aspirations de la jeunesse pour la réforme de la monarchie, pour la réforme de l'armée. Ce parti a d'abord été empêché, son leader a d'abord été empêché, le premier leader, Thanatorn, pour une affaire de fausse donation, enfin quelque chose en rapport avec la violation de la loi sur le financement des partis politiques qui était très très technique et assez tirée par les cheveux, il faut bien le dire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le parti a été dissous. Tous les membres du comité exécutif du parti ont été bannis, interdits d'activité politique pour 10 ans. Le parti s'est reformé, cette fois avec Monsieur Pita, et suite à la victoire électorale, alors la Cour constitutionnelle l'a suspendu à titre conservatoire pour examiner cette question sur sa déclaration de patrimoine. Est-ce que sa déclaration de patrimoine a été sincère? Donc vous voyez encore une technicalité. Et que s'est-il passé? C'était une procédure dilatoire, puisqu'au final, on s'est rendu compte que sa déclaration de patrimoine était tout à fait sincère, que c'est les actions qu'il détenait dans tel ou tel média n'avaient aucune incidence sur la campagne électorale.
Oui, puisqu'on lui avait reproché ça, d'avoir des actions dans un média. En fait, la télé n'aimait plus depuis 2007 ou 2009. Voilà, ça n'avait pas de conséquences.
C'était la même chose pour Thanatorn d'ailleurs. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'il était suspendu, a eu lieu le vote pour l'élection du Premier ministre. Et donc c'était une manœuvre dilatoire qui permettait de s'assurer qu'il ne soit pas le Premier ministre. Et donc là, il a été blanchi, c'est dans un souci d'apaisement pour qu'il n'y ait pas de manifestation. Mais demain, le parti peut, et je pense, sera dissous.
Ce parti, pour l'instant encore dirigé par Monsieur Pita, ancien étudiant de Harvard, pour donner les grandes lignes de sa biographie, il a 43 ans aujourd'hui, il a porté dans le programme de Move Forward le projet à la fois d'une nouvelle constitution, de l'abolition du service militaire obligatoire, la dépénalisation de l'avortement, la légalisation du mariage pour tous, la dépénalisation du cannabis par ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, Eugénie Mériot, si on regarde la cartographie du vote en Thaïlande, où est-ce que ce programme a le plus séduit? Qu'est-ce qu'on peut conclure, enfin vous qui vous intéressez à la Thaïlande depuis si longtemps, qu'est-ce qui vous a intéressé dans la cartographie du vote, tous ceux qui ont voté pour ce parti, qu'il est difficile de qualifier vu d'ici, peut-être progressiste, voilà.
Alors, traditionnellement, la Thaïlande est divisée en deux, entre d'une part l'électorat des campagnes, et puis surtout qui sont surtout dans le nord et dans le nord-est, où vous avez beaucoup de riziculture, et puis les populations des villes, surtout concentrées dans le centre, Bangkok évidemment, et puis dans le sud, Phuket et les grandes stations touristiques. Vous avez traditionnellement donc ce peuple des campagnes qui vote pour des politiciens plutôt locaux, et puis les peuples des villes qui préfèrent les élites de Bangkok et qui soutiennent la monarchie et l'armée. Et donc traditionnellement, vous avez ce peuple des campagnes qui est massif, qui élit des premiers ministres qui sont ensuite contestés par la rue à Bangkok et dans les grandes villes, et ces manifestations minoritaires en fait, puisque ce sont des manifestations de quelques grandes villes, sont soutenues par l'armée, sont soutenues ou manœuvrées par l'armée, on ne sait pas. En tout cas, ensuite l'armée renverse ces premiers ministres. C'est ce qui s'est passé avec Thaksin, qui était le grand champion de la population rurale du nord et du nord-est, parce qu'il avait mis en place la sécurité sociale pour tous à 30 bahts, c'est-à-dire l'équivalent de moins d'un euro. Il avait mis en place du microcrédit, il avait essayé de développer les universités des centres du Nord et du Nord-Est, enfin essayer de, voilà, de redonner un peu de dignité à ces populations-là. Il est devenu leur champion. Il a été renversé par l'armée en 2006 et c'est ce qui s'est produit avec sa sœur Yingluck également, qui l'a remplacé, on peut dire, après le coup d'État militaire de 2006 et qui, elle aussi, a été victime d'un coup d'État militaire en 2014. Et les deux fois, c'était à la suite de manifestations de la part de Bangkok.
D'où la grande question qui se pose aujourd'hui, puisque vous évoquez Thaksin Eugénie Merriot, cet homme qui a été donc Premier ministre, renversé, vous venez de le dire, par l'armée en 2006, qui a longtemps vécu en exil, qui vient de rentrer en Thaïlande. À peine rentré, il a été condamné à 8 ans de prison, mais à peine condamné, il a été quasiment gracié par la monarchie. Et là, toute la question est de savoir s'il a trahi ce qui, jusqu'à présent, lui faisait confiance, puisque c'est son parti à lui, à Thaksin, qui vient de s'allier avec des partis proches de l'armée pour former un nouveau gouvernement. Comment est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui la trahison que ça peut représenter pour les électeurs de son parti ?
Alors avant de répondre, je vais juste terminer sur la question de cette cartographie électorale. Donc le Move Forward est venu bouleverser cette cartographie peuple des campagnes contre peuple des villes, puisque le Move Forward, déjà, il a choisi la couleur orange, alors que traditionnellement le rouge, c'est la couleur du peuple des campagnes pro-Thaksin, et le jaune, celui des pro-monarchie, pro-armée dans les villes à Bangkok, les élites urbanisées, occidentalisées. Ici, vous avez un parti qui se désigne comme orange, qui a en son sein à la fois des personnes très occidentalisées, vous venez de le mentionner, le cas de Pita qui a été éduqué à Harvard, qui a été un young leader, etc. Mais aussi toute une série d'anciennes chemises rouges. Et donc ce vote-là, il est bouleversant dans la mesure où il a eu l'ensemble de Bangkok pour lui, mais aussi le Nord et le Nord-Est.
Alors vous dites il est bouleversant pour lui, pourquoi ? Enfin c'est quelqu'un auquel aujourd'hui tous les Thaïlandais peuvent se référer, qu'ils aient été pour ou contre. C'est un personnage central, là je parle de Thaksin, qui avait par ailleurs mené plus ou moins le mouvement des chemises rouges à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente en Thaïlande, son retour sur le sol thaïlandais et surtout l'accord qu'a signé son parti, le Pua Thai, avec les partis que l'on dit proches de l'armée en Thaïlande.
Alors Thaksin, lorsqu'il est élu en 2001 pour la première fois, c'est un milliardaire, mania des communications, on l'appelle le Berlusconi thaïlandais. Et peu à peu, au cours de son évolution, il devient de plus en plus populiste, c'est-à-dire qu'il s'appuie de plus en plus sur les populations qui l'ont élu du Nord et du Nord-Est contre la monarchie et l'armée. Pourquoi ? Parce que il est considéré comme faisant de l'ombre à la monarchie, à l'époque Bhumipol, et donc il est soumis à toute une série d'ingérences de la part du palais et de l'armée. Et donc, peu à peu, il devient l'ennemi de l'establishment, ce qui conduit à son renversement par coup d'État militaire. Les chemises rouges sont nées pour soutenir Thaksin après le coup d'État de 2006. Ils ont porté au pouvoir Yingluck en 2011, la sœur de Thaksin. Les chemises rouges qui, étaient quand même plutôt pro-Thaksin que pro-démocratie, et on le voit aujourd'hui. On voit aujourd'hui que Thaksin, ce qui l'a toujours intéressé, c'était davantage le pouvoir que le combat démocratique, puisque il a été condamné pour corruption, il s'est exilé à Dubaï. Je rappelle que c'est un milliardaire, donc il s'est exilé à Dubaï. Ses conditions de vie n'étaient pas trop horribles. De même pour Yingluck, d'ailleurs, sa sœur, qui a été condamnée pour corruption et qui s'est aussi exilée. Et finalement, il a fait un deal avec l'armée pour revenir en Thaïlande, ne pas avoir à purger sa peine de 8 ans, donc il a fait un an de prison, et un an de prison dans un hôpital VIP, et ensuite il est sorti et demain il peut revenir aux affaires. Sachant que c'était un deal qu'il essayait de faire depuis 2008, il a essayé à différentes reprises et finalement l'occasion s'est trouvée avec cette élection, puisque le parti Pua Thai a pu voler l'élection de Move Forward en s'alliant maintenant avec l'armée. Donc là, Thaksin avait vraiment un levier pour négocier avec le roi et l'armée. Et ce qu'il a fait, il a pu rentrer en Thaïlande. Demain, Yingluck va rentrer également. Là, elle vient d'être blanchie également de sa condamnation pour corruption. Donc demain, toute la famille Shinawat va rentrer et va pouvoir servir l'armée et la monarchie. Exactement. Le contraire de ce que demandaient les chemises rouges et de ce qu'ils prenaient, absolument.
Et qui parlait d'instaurer un contrôle civil sur l'armée. C'était le discours avant. Et là, on est face à un accord signé avec l'armée que représente aujourd'hui en Thaïlande, par ailleurs, le rejet de la domination politique de l'armée, si ce n'est le rejet de l'armée en tant que telle, le rejet de cette domination politique. Est-ce que, à l'occasion des élections où Move Forward a été très présent, cette question-là de la place de l'armée a été centrale ou c'était vraiment plutôt la monarchie, le crime de lèse-majesté et les réformes sociales annoncées?
L'armée a été donc le débat sur l'armée est porté également par le Move Forward, notamment la diminution des budgets. Il y avait également une réforme de la Constitution. Donc je rappelle que la Constitution a été rédigée sous la supervision de l'armée en 2017 et cette dernière s'est octroyée un Sénat entièrement nommé par elle-même. C'est la manière avec laquelle elle a pu avoir Prayut, qui est le chef de la junte, élu à une reprise et rester Premier ministre de la Thaïlande grâce à ses sénateurs nommés. Et c'est d'ailleurs grâce à ses sénateurs nommés par l'armée également que le parti de Thaksin a pu former une coalition avec l'armée pour diriger le gouvernement et exclure le parti Move Forward, vainqueur des élections du gouvernement.
Sauf que ces sénateurs-là acquis à l'armée, leur mandat se termine cette année et c'est la fin, cette année est importante en Thaïlande, c'est la fin d'une période, disons, de démocratie tutélaire. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en fait, les cycles en Thaïlande sont intéressants et vous l'expliquez bien dans vos ouvrages, Eugénie Mériot, c'est des cycles presque systématique de un coup d'État, d'ailleurs souvent au nom d'une restauration de la démocratie, c'est les discours qu'on entend dans la bouche des généraux qui mènent ces coups d'État. On vient restaurer la démocratie, on mène un coup d'État, il y a des élections, une démocratie qui commence à s'instaurer et à nouveau un coup d'État, etc. Mais avec quand même des phases, et donc là on arrive au bout d'une phase en 2024.
Oui, donc le 11 mai, il y aura l'élection des sénateurs. Ce sont des élections sur un mode corporatiste, en tout cas par des groupes professionnels. Mais on va voir dans quelle mesure les différents partis politiques vont se structurer pour présenter des candidats à cette élection. Et en effet, l'ensemble de l'architecture, en tout cas une grande partie de l'architecture de la démocratie tutélaire, repose sur les sénateurs nommés. Et d'ailleurs, ça a été... la réforme du Sénat est un grand serpent de mer dans l'histoire politique thaïlandaise. En tout cas, là, à partir du 11 mai, on aura un Sénat élu et ce Sénat ne pourra plus participer à l'élection du Premier ministre comme ça avait été le cas aux dernières élections. Et donc, tout porte à croire qu'aux prochaines élections, dans 4 ans, donc en 2027, en 3 ans et demi, en 2027, si le Move Forward ou une reformation du Move Forward, si ce dernier a été dissous, remporte les élections, alors que se passera-t-il? Il n'y aura plus les sénateurs nommés pour les exclure du pouvoir. Historiquement, en général, c'est dans ce genre de configuration que se produisent les coups d'État judiciaires ou militaires.
Et vous acquiescez, Eugénie Mériot, l'armée a toujours cet argument-là de dire qu'elle vient, au nom de la démocratie, restaurer un certain ordre.
Oui, la démocratie en Thaïlande est définie comme la démocratie avec le roi comme chef d'État. C'est la démocratie à la Thaï. Donc ça a été l'objet de nombreux écrits. C'est la doctrine juridique thaïlandaise et puis politique également qui s'oppose à l'idée d'une démocratie universaliste. En tout cas, ce sont les élites, une certaine génération, qui ont toujours prôné cela. En tout cas, aujourd'hui, c'est la doctrine officielle adoptée par la Cour constitutionnelle thaïlandaise qui vise à protéger ce type de démocratie monarchiste de toute remise en cause.
Alors, on parlait de Thaksin, ancien chef d'entreprise, milliardaire, ancien propriétaire du club de foot de Manchester, si je dis pas de bêtises, c'est bien lui. Eugénie Mériot, le nouveau premier ministre, donc issu de sa formation aussi, donc Sreta Thavisin, lui aussi met en avant ses succès à la tête du géant de l'immobilier Sentsiri pour dire qu'il va redresser le pays économiquement, puisque c'est lui pour l'instant qui est à la tête du gouvernement en Thaïlande. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce mandat? Qu'est-ce que les Thaïlandais peuvent en attendre là sur un plan strictement économique, social, les mesures annoncées, est-ce qu'on en sait déjà un peu plus?
Alors, il y a des mesures de distribution de cash ou de chèques aux personnes les moins, comment dire, aux personnes défavorisées ou en difficulté. Donc, c'est la grande politique. Mais sinon, à part ça, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de programme politique pour ce parti, autre que le retour de Thaksin et de la famille Shinawat aux affaires. Là, la fille de Thaksin et la leader du Peu à Thaï. Et demain, on peut s'attendre à ce qu'elle devienne la nouvelle première ministre, et on peut s'attendre à toute une série de drames, comme je viens d'en évoquer un certain nombre, avec la possibilité d'une dissolution du parti, la possibilité d'un coup d'état judiciaire, d'un coup d'état militaire, qui, je pense, font passer les questions de politique et même l'efficacité des politiques publiques en Thaïlande au second plan. En fait, c'est toute cette instabilité chronique de la Thaïlande a fait qu'aujourd'hui, ce pays qui aurait pu devenir, qui dans les années 2000 aurait pu devenir l'un des leaders en Asie du Sud-Est, en fait un pays à la traîne, hein, par rapport au Vietnam et à l'Indonésie, en matière de développement économique, de développement des infrastructures. Voilà, parce qu'il y a cette instabilité et ce focus sur la politique, la cuisine électorale interne.
Même si vous disiez qu'au tout début de son mandat, Thaksin, l'ancien Premier ministre, avait pris des mesures sociales qui au départ étaient populaires.
Oui.
Donc ça existait au départ, il y avait au moins dans les discours et dans les premiers actes, un souci pour les plus défavorisés en Thaïlande.
Ah, mais on ne peut que faire crédit à Thaksin d'avoir eu un programme électoral extrêmement ambitieux en 2001 et de l'avoir mis en place et mis en œuvre avec succès dans les 100 premiers jours. Et c'est ce qui lui a acquis les classes populaires pour toujours. Et on ne peut pas nier le fait que en particulier sous le premier mandat de Thaksin, la Thaïlande a connu un essor et un rayonnement tout à fait considérable.
Un tout petit dernier mot, puisqu'on parle, cette émission sur la Thaïlande suit une émission sur le Pakistan où il était aussi question de clans familiaux. Demain, on va parler des Philippines où c'est aussi une histoire de famille. Alors, la comparaison s'arrête là. La Thaïlande a un système politique bien à elle. Néanmoins, c'est aussi une histoire de famille en Thaïlande, la politique.
Oui, dynastie politique, est-ce que c'est un phénomène uniquement asiatique? Je ne crois pas, mais en tout cas, c'est vrai que quand vous avez un système avec beaucoup d'instabilité et des votes qui sont confisqués, il y a une tendance pour les électeurs à se rabattre sur ceux qu'ils connaissent le mieux et donc sur la politique familiale. Et comme au Pakistan, comme en Inde, en fait, dans tous les pays où vous avez une élection qui est confisquée avec un leader qui est empêché de se présenter aux élections, eh bien vous avez un report sur la fille, la mère, la sœur qui de ce fait entre en politique pour représenter la personne empêchée de participer à la politique. Donc oui, en Thaïlande, le clan Shinawat est bien représentatif de... Voilà, on pourrait parler de Singapour aussi. D'ailleurs, vous devriez faire une émission sur Singapour, qui est aussi une démocratie confisquée avec des dynasties politiques très 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 importantes.
C'est vrai que là, on n'a pas prévu de parler de Singapour. On va en revanche évoquer Taïwan et Hong Kong. Il y a eu une forme d'alliance entre les populations taïwanaises, hongkongaises et thaïlandaises pour réclamer le retour d'une certaine démocratie. On en parlera dans un instant avec Stéphane Korkuff, juste après ce groupe thaïlandais Losso.
ธอที่ไรจิตใจเต้นรัวฉันกลัวฉันกลัวกลัวเธอไม่สนใจอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอดังโลกนี้สดใสขึ้นทันตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจสักคน
Le groupe thaïlandais Losso, créé il y a maintenant 30 ans, Eugénie Mériot, tout le monde connaît ce groupe Losso et en particulier cette chanson-là.
Oui, chanson d'amour typique. Losso, ça veut dire classe. Losso, c'est de l'anglais en fait. Losso, donc classe sociale inférieure. Et d'ailleurs, c'est que Losso est toujours présent et il est toujours sur les réseaux sociaux. Il a d'ailleurs composé des chansons sur la politique. Là, il en a composé une sur Move Forward récemment. Kao Klai, c'est le pas en avant, donc il a composé cette chanson qui s'appelle Pas en avant.
Donc plutôt en soutien.
En soutien, en soutien, oui.
D'accord, même si on aurait pu interpréter, mais ce serait malhonnête de notre part, les paroles de sa chanson d'il y a 30 ans, cette chanson d'amour. Somnambule, ton image me hante chaque nuit, mais je ne peux qu'en rêver. En Thaïlande, la monarchie intouchable, c'est le troisième épisode de notre série consacrée à l'Asie du Sud et du Sud-Est et aux aspirations contrariées des populations à des régimes plus ouverts. Notre invité, donc Eugénie Mériot, vous nous parliez des grandes manifestations de 2020 pour, à minima, une réforme de la monarchie. Et ce mouvement avait créé des liens avec ceux qui avaient cours alors à Taïwan et à Hong Kong.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Les habitants de Hong Kong sont solidaires de la Thaïlande, tout comme les Thaïlandais ont soutenu Hong Kong en 2019. Le peuple thaïlandais a vraiment inspiré Hong Kong. Cela signifie beaucoup pour continuer notre combat pour la liberté.
C'est un moyen pour notre génération d'afficher notre pouvoir. Nous voulons des changements dans ce pays.
Joshua Wong, le militant hongkongais se revendiquant du camp pro-démocratie, lequel s'est donc, comme il dit, inspiré des grandes manifestations thaïlandaises de 2020, une solidarité inédite entre les militants de Hong Kong, de Thaïlande, mais aussi de Taïwan, s'est nouée à l'époque sur les réseaux sociaux, l'alliance dite du thé au lait. Bonjour Stéphane Corcuff.
Bonjour Julie Gacon. Merci. Et bonjour à vos auditeurs.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sinologue, maître de conférence à Sciences Po Lyon. Alors Stéphane Corcuff, vous travaillez sur Taïwan depuis de très nombreuses années et on voit bien ce qui a pu réunir à distance les militants de Hong Kong et de Taïwan. Dans les deux cas, la Chine, le régime chinois, sa volonté d'une réunification, vous me pardonnerez ce mot simpliste. Mais pourquoi les Thaïlandais se sont sentis des affinités avec eux et vice-versa ?
Alors, tout ça a démarré pas vraiment avec une alliance transnationale de jeunes qui se seraient mis en tête, comme l'a suggéré Joshua Wong, de s'allier contre l'autoritarisme chinois. Ça a commencé le 14 avril, ou début avril 2020, sur un petit tweet, une guerre de tweets en fait, et sur les réseaux sociaux entre un couple thaïlandais qui était composé d'une actrice, d'un acteur et d'une vedette de mode, et les internautes chinois qui se sont mis à les attaquer tous les deux parce qu'ils avaient eu des propos prétendument indépendantistes favorisant l'indépendance de Taïwan. En fait, il n'en était rien du tout. Ils avaient juste, de manière extrêmement prosaïque, dit qu'ils étaient habillés plutôt dans une mode taïwanaise que chinoise. Ça avait suffi pour déclencher les foudres des internautes. Et de fil en aiguille, en fait, l'ambassade de Chine s'en est mêlée à Bangkok. Et très rapidement, en fait, l'ambassade de Chine... Alors, il y a eu énormément de violence de ce que moi j'appelle les gardes roses chez Fenrong des Chinois sur Internet. Et l'ambassade de Chine s'en est mêlée. Et très rapidement, après les insultes des internautes chinois, l'ambassade s'est retranchée derrière quelque chose d'un peu idiot et systématique, c'est-à-dire de déclarer qu'en fait, il y avait une politique d'une seule Chine et que les Thaïlandais n'avaient pas à la contester. Alors, le lien était plus que ténu. Et ça a suffi pour en fait attirer l'attention de Joshua Wong, dont vous parliez à l'instant. D'une certaine manière, c'est lui qui a un petit peu fait passer je crois. Ce mouvement qui était contre, disons, un peu, voilà, un ras-le-bol de cette prégnance et ces attaques des Chinois sur Internet, vers une attitude plus générale des jeunesses de l'Asie orientale maritime contre cet autoritarisme chinois. Donc on est passé de quelque chose d'un ras-le-bol sociétal à quelque chose de plus géopolitique.
Ah.
Et
oui, voilà, on a entendu l'ambulance qui passait devant vous. Oui. et donc quelque chose de plus géopolitique, parce qu'en plus on était, Stéphane Corcuff, dans un contexte particulier. Le Covid était là, la répression à Hong Kong, la découverte par ailleurs des camps ouïghours à l'époque. Donc la Chine était en train de durcir. Il y avait quelque chose qui était en train de se passer à Taïwan et à Hong Kong notamment, mais les Thaïlandais se sont sentis manifestement également solidaires aussi de ça. Pourquoi ?
Oui, moi, parce qu'en fait, les Thaïlandais, depuis des années déjà, critiquent cette espèce d'alliance entre, disons, leur gouvernement et la Chine, et le vivent très mal. Donc, dans le tout début de ce qui s'est appelé très rapidement, je crois que c'était le 14 avril 2020, l'alliance du Théolet, on a critiqué de manière générale tout ce que les Chinois provoquaient comme problème dans les restaurants, etc. C'était très bien. Et en fait, je pense que c'est... Je me demande si c'est pas l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que les Hongkongais, par l'intermédiaire de Joshua, et puis les Taïwanais, se sont sentis solidaires de ce qui se passait en Thaïlande, et peut-être avec un effet retour, les Thaïlandais se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas seuls, et que finalement, à travers les différences entre Taïwan, une île et souveraine, Hong Kong, un territoire chinois, mais censé autonome, et la Thaïlande, un État sur le continent et indépendant, que tous avaient en fait, et il y a la Birmanie aussi qui s'est mise dans l'histoire, que tous avaient un problème commun qui était l'autoritarisme sur leur sol ou l'influence d'un autoritarisme, ou en l'occurrence d'un régime totalitaire ou néo-totalitaire envers eux pour Taïwan. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ça est parti des réseaux sociaux. Bon, on le sait, hein, les mobilisations, c'est quelque chose d'assez fréquent au XXe siècle, surtout en début de ce XXIe siècle, et ils sont très connectés. Donc ce qu'on a vu là avec cette alliance du Théolet, qui était relativement nouvelle, pas totalement, parce que ça avait quand même vachement beaucoup commencé entre Taïwan et Hong Kong, c'est en fait cette interconnexion par Internet, des réseaux sociaux, qui ont permis à ces militants de commencer à dialoguer, de se donner des conseils, de se soutenir, de s'envoyer des documents, et finalement de constituer une forme d'alliance internationale des jeunes militants civiques, qui ne s'est pas concrétisée sous forme d'une organisation internationale, mais là, dans les organisations internationales, dans la société internationale officielle, on n'a absolument pas besoin de ça aujourd'hui pour faire du transnational, du militantisme international. Et c'est ce qui s'est configuré entre 2020 et 2022. Bon, on en parle un peu moins aujourd'hui.
Oui, on en parle un petit peu moins aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il reste de cette alliance du Théolet ? Peut-être qu'il faut rappeler pourquoi ce nom a été pris par les militants.
Alors, il y a plusieurs théories là-dessus, hein, mais l'une qui paraît assez probante, c'est que en fait, dans cette attaque des Chinois, des gardes roses sur Internet, les Thaïlandais, les Hongkongais, les Taïwanais ont commencé à multiplier les exemples de leur insatisfaction face à la Chine, et petit à petit a émergé ce débat très ancien sur, et finalement, le Théolet, est-ce qu'il est chinois ou taïwanais. En fait, le vrai débat, c'est le Théolet aux billes de tapioca. Mais le Théolet, c'est ni chinois ni taïwanais en propre. C'est tibétain, c'est hindou. Enfin, ça se pratique tout à fait largement en Asie.
Donc
ils se sont sentis une certaine communauté. Voilà. Puis c'est aussi quelque chose d'assez doux, le Théolet. Donc voilà. C'est un peu l'origine du mot. Et puis c'est devenu une sorte de quelque chose d'identitaire.
Et alors, qu'est-ce qu'il en reste de cette alliance ?
Pour répondre à votre question, en fait, ce qu'il en reste, je crois, pas grand-chose. On voit plus beaucoup de mentions de la question aujourd'hui. Mais peut-être que ce qu'il en reste, c'est moins une organisation non formelle qui serait aujourd'hui encore, disons, en état de marche, que en fait, d'abord, un héritage, puisque ça a changé un certain nombre de choses, et puis aussi une structure ou une mémoire qui peut être réactivée en cas de besoin. Si vous regardez sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, on trouve très peu de mentions de Théolé Multi Alliance aujourd'hui, mais on peut raisonnablement supposer que ça peut être réactivé quand il y en aura besoin. Voilà. Et ce que ça a changé, en fait, concrètement, c'est que les militants de Hong Kong, de Taïwan, de Thaïlande ou de Birmanie se sont sentis dans une sorte d'intersubjectivité. Et on sait que dans les manifestations, les gens qui manifestent doivent gérer la peur, l'inquiétude, l'information. Et en fait, il y a une forme d'intersubjectivité qui se construit dans ces mouvements. Et ce qui me fascine dans le Théolé, c'est qu'en fait, cette intersubjectivité, elle était plus seulement entre individus, mais entre peuples. Et ça, c'était vraiment une grande nouveauté, encore que, comme je vous le dis, ça s'inscrit dans un mouvement plus vaste qu'on pourrait appeler, je le fais moi depuis longtemps dans mes cours, d'une géopolitique des mobilisations. Et là, ce qu'on a vu, c'est que, en fait, l'Asie était assez en avance sur la question. Voilà.
Merci beaucoup Stéphane Corcuff d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sinologue, maître de conférence à Sciences Po Lyon, que vous devez faire paraître un livre bientôt, me semble-t-il, aux éditions du Cavalier Bleu, Taïwan, nation souveraine. Merci d'avoir été avec nous Stéphane Corcuff. Eugénie Mériot, dans les deux cas, par ailleurs, les régimes à qui ces manifestants s'adressent, dans les trois cas même, Taïwan, Hong Kong et la Thaïlande, les régimes à qui ils s'adressent, ces manifestants, tendent à leur dire que les valeurs qu'ils défendent sont des valeurs occidentale, ça c'est un discours qu'on entend aussi en Thaïlande. Vous écrivez dans votre livre que c'est une question toujours politiquement opérante en Thaïlande, la question de se demander si la démocratie est compatible avec la culture thaïlandaise, on l'entend dans les discours politiques.
Oui, évidemment. Alors, je voudrais juste... ces mobilisations, elles sont considérées comme pro-occidentales, anti-Chine, et les gouvernements en place... Alors pas à Taïwan, mais en tout cas dans les autres pays, accusent ces mobilisations d'être financées par l'étranger. Ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs. Ça dépend comment on définit financé par l'étranger et deuxièmement, dans quelle mesure on considère que le fait de recevoir des financements de l'étranger inféode ces mouvements-là à un certain agenda politique. Donc ça, c'est une autre question peut-être. Évidemment qu'il y a des financements, des ambassades occidentales, des think tanks américains pour ces manifestants. Mais donc si on revient sur la Thaïlande, il y a en effet... une question très très ancienne de la compatibilité ou non de la démocratie avec la culture thaï qui est généralement répondu de façon différente. Très nettement, il y a un conflit générationnel sur cette question-là. Vous avez les anciennes générations pro-monarchistes, pro-bouddhistes, enfin très bouddhistes et pro-militaires qui, elles, considèrent qu'il faut une démocratie à la thaï. Et c'est le dictateur des années 60, Sarit Thanarat, qui avait dit on ne peut pas faire pousser le même arbre en Thaïlande et aux États-Unis. On peut prendre l'anecdote aussi de L'esprit des lois de Montesquieu. C'est un livre qui a été traduit très, très tardivement en Thaïlande, dans les années 80. Et j'avais fait une interview avec la traductrice dans le cadre d'un projet de recherche, et elle disait, moi ce qui m'intéresse quand je traduis Montesquieu, c'est lorsqu'il dit que les lois d'une nation ne peuvent pas convenir à une autre. Donc il y a vraiment cette idée-là d'une résistance à un modèle occidental que l'on retrouve en Thaïlande en particulier et dans les autres pays. Mais je voudrais juste dire aussi, sur cette mobilisation, un point intéressant, c'est Hunger Games, le salut des trois doigts. Tous ces mouvements-là, et je participais encore récemment à une manifestation avec des Birmans, des Thaïs et d'autres pays d'Asie du Sud-Est, ils ont en commun cette culture de la résistance et une ingénierie de mobilisation d'une certaine génération de la pop culture.
Et des préceptes de la star du kung-fu, Bruce Lee, couler comme de l'eau, se donner rendez-vous à différents endroits de la ville, que ce soit à Hong Kong ou Bangkok, et s'écouler dans les rues, échappant tranquillement à une police qui, paraît-il, a souvent un ou deux métros de retard dans toutes ces villes. Merci beaucoup Eugénie Mériot d'être venue en parler avec nous. Vous êtes politologue, maîtresse de conférence en droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous aviez publié Idées reçues sur la Thaïlande aux éditions du Cavalier Bleu, et vous venez de publier une deuxième édition édition revue et augmentée d'un précédent ouvrage, La dictature, une antithèse de la démocratie, avec un point d'interrogation. Forcément, tout de suite, ça nous évoque des questions. Il faut lire votre livre pour y répondre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Au Mozambique, Catherine, des attaques djihadistes dans le nord du pays ont forcé plus de 110 000 personnes à quitter leur maison depuis le début de l'année.
Des Mozambicains devant fuir les attaques terroristes dans la province de Cabo Delgado, contraints de marcher sur des pistes sableuses ou caillouteuses, avec pour seul bagage leurs vêtements sur le dos, des pagnes ou des shorts, comme le montre sur son site Radio Mozambique, la radio publique mozambicaine. Des déplacés qui portent aussi parfois des sacs sur la tête et un bidon d'eau à la main. Dans la panique de l'exode de plus de 110 000 personnes, 70 enfants ont été séparés de leur famille ces dernières semaines. Ils pourraient avoir été enlevés et emmenés de force dans des camps militaires par des terroristes liés au groupe État islamique, précise le journal privé Expresso da Tarde et la BBC. Si le gouvernement n'avait fin février pas l'intention de déclarer l'état d'urgence, car la situation est selon lui sous contrôle, rapporte Canal des Mozambiques, une école sur cinq doit tout de même rester fermée à cause du terrorisme, précise la radio publique mozambicaine. Et des dizaines de milliers de déplacés dépendent du programme alimentaire mondial pour manger. Les attaques djihadistes se multiplient certes depuis fin novembre, mais les troubles n'ont pas cessé depuis 2017, rappelle la BBC. Car Cabo Delgado est la province du nord du Mozambique où les ressources, gaz, rubis, graphite, or sont autant de malédictions, estime le média public britannique. Les djihadistes ont exploité le ressentiment de la population locale qui reproche au gouvernement de ne pas bénéficier elle aussi de ses richesses. Le média public britannique rappelle que la province de Cabo Delgado abrite l'immense projet de gaz naturel liquéfié exploité par la société française Total Energy d'une valeur estimée à 60 milliards de dollars. Des centaines de djihadistes s'en étaient approchés en 2021 en attaquant la ville de Palma, toujours dans le nord du Mozambique, tuant des dizaines d'habitants locaux et expatriés. Le président de Total promet la reprise des travaux sur les projets gaziers d'ici le milieu de l'année, affirme Canal des Mozambiques. Mais pour vaincre l'insurrection djihadiste, selon la BBC, il faudra dans un premier temps, certes, une campagne militaire efficace. Le Parlement du Mozambique a d'ailleurs augmenté en novembre dernier la durée du service militaire obligatoire de 2 à 5 ans pour le service général et jusqu'à 6 ans pour les forces spéciales, précise la BBC. Mais il faut aussi une bonne gouvernance et des investissements dans la communauté locale, des écoles, des routes, des emplois, pour apaiser le sentiment de la population d'avoir été abandonnée par son gouvernement, alors que de grandes multinationales étrangères, explique encore la BBC, débarquent et récoltent les bénéfices des précieuses ressources naturelles du pays.
Lui parle d'éco-terrorisme et c'est Elon Musk, le patron de Tesla, qui dénonce le sabotage contre son immense usine de voitures électriques près de Berlin.
Sabotage revendiqué hier par un groupuscule allemand d'extrême gauche et pour la presse conservatrice comme la Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est le signe d'une banalisation de la violence de gauche en Allemagne, alors que des journaux de gauche, eux, comme Il Manifesto en Italie, y voient une forme de résistance pour défendre l'environnement. Vulcan Gruppe, c'est en tout cas le nom de ce groupuscule qui a reconnu sur Indie Media, plateforme des activistes d'extrême gauche, avoir incendié les équipements d'alimentation électrique de Tesla. La quasi-totalité des 12 000 salariés ont dû être renvoyés chez eux. Préjudice estimé par Tesla à plusieurs centaines de millions d'euros, explique la Süddeutsche Zeitung et Welt, la chaîne de télévision privée allemande.
Ein Brandanschlag auf eine Stromanlage hat die Tesla Gigafabrik stundenlang lahmgelegt. Das gesamte Werk, die Stadt Erkner und Teile Berlins waren ohne Strom.
Un incendie criminel sur un pylône électrique a paralysé l'usine Tesla pendant des heures. Mais la ville d'Erkner et plusieurs parties de Berlin ont aussi été privées d'électricité, explique la journaliste de Welt. Vulcan Gruppe explique s'en prendre aux technofascistes comme Elon Musk, prêts à déboiser des forêts pour leurs intérêts économiques, ajoute la chaîne de télévision, ainsi que le journal de gauche Die Tage Zeitung. Le quotidien berlinois relaie les accusations du Vulcan Gruppe, qui accuse également le géant automobile américain Tesla de manger de la terre, des ressources, des hommes, de la main-d'œuvre pour, je cite encore, cracher 6000 SUV, machines à tuer et monster trucks par semaine. Fin de citation.
Et ce mouvement est connu des renseignements généraux allemands, Catherine, et avait déjà revendiqué un incendie.
C'était en 2021, rappel die Tage Zeitung, déjà sur un chantier de Tesla. Et dans les colonnes de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, cette fois, un journaliste dénonce les actions des enfants de la RAF, la Fraction Armée Rouge, organisation terroriste d'extrême gauche, dans les années 70 et 80. Ce journaliste appelle les pouvoirs fédéraux à agir contre les milieux d'extrême gauche qui, selon lui, pourraient évoluer vers des structures terroristes, une nouvelle RAF, mais verte. Le gouvernement du Land de Brandebourg se demande, explique la Süddeutsche Zeitung, s'il ne faut pas en finir aussi avec la tolérance du camp de manifestants pacifiques contre l'extension de Tesla, des cabanes installées dans des arbres à proximité de l'usine, et ce sabotage d'hier est un nouveau problème à gérer pour la firme d'Elon Musk en Europe, déjà ralentie côté livraison par les attaques de cargo en mer Rouge. Tesla, par ailleurs empêtré dans un conflit social en Suède où, comme en Allemagne, le groupe automobile refuse de signer une convention collective pour protéger ses employés. Nous en avions parlé ici même en novembre dernier. Le syndicat suédois s'est lancé dans une grève depuis 4 mois, suivi par des salariés danois et norvégiens.
Merci beaucoup Catherine Dutu.